message de ce matin reprend en grande partie un enseignement du pasteur argentin Juan Carlos Ortiz, extrait de son livre « Vivre avec Jésus aujourd'hui ». Les paragraphes que j'y ai ajoutés viennent en complément de cet enseignement très important pour notre foi personnelle et communautaire, et je lui ai donné un titre. Quel Jésus connaissons-nous ? Ce titre volontairement provocateur a pour but de nous faire comprendre qu'il existe deux Jésus. Il y a le Jésus historique, tel qu'il est rapporté dans les évangiles. C'est celui que les chrétiens, comme les athées, peuvent découvrir en lisant les évangiles. Mais il y a aussi le Jésus vivant en nous, que seuls les chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit peuvent connaître. Il est bien sûr indispensable pour nous chrétiens de connaître le personnage de Jésus tel que les évangiles en parlent. Mais, parce qu'il y a un mais, si notre connaissance de Jésus se limite à cela, il nous manque l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque la vie même de Jésus vivant en nous. C'est ce que dit Paul clairement en 2 Corinthiens 5, 16. Écoutez bien. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, c'est-à-dire le personnage historique, hein, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. À quoi Paul pense-t-il en disant cela ? Il pense que la vraie connaissance, c'est de connaître Jésus selon l'Esprit. N'est-ce pas lui, Paul, qui a écrit en Galates 2:20 « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Avant d'entrer dans le cœur de l'enseignement, je veux faire deux remarques importantes. La première, c'est que dans la Nouvelle Alliance, le Christ libère le chrétien de l'esclavage de la loi. Romains 7, 4, 6. Pourquoi la loi de Dieu, la loi donnée par Dieu à Moïse, rend-elle les croyants esclaves ? Ne serait-elle pas une loi juste ? Si, nous dit Paul, et je cite, « La loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. » Romains 7, 12. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est la nature pécheresse de l'homme. À cause de cette nature, l'homme est parfaitement incapable par lui-même de mettre la loi en pratique. Alors, à quoi elle sert cette loi ? Elle sert à faire comprendre à l'homme qu'il est un pécheur et que de ce fait, il a besoin d'un sauveur. Ces principes de base que chaque chrétien doit avoir présent à l'esprit, l'apôtre Paul les annonce en Romains 3, 20 et Romains 7, 7. La seconde remarque est en lien avec ce qui vient d'être dit sur l'esclavage de la loi. Je veux souligner, parce que c'est difficile de tout comprendre à la lecture, je veux souligner que dans le texte de 2 Corinthiens que je vous ai lu, Paul qualifie la loi de l'être qui tue, de ministère de la mort et de ministère de la condamnation. Il est donc primordial de comprendre la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance, dans laquelle de nombreux chapitres sont consacrés à la loi et la nouvelle alliance. En 2 Corinthiens 3:3, Paul décrit les croyants de Corinthe, donc nous aussi, comme étant une, je le cite, une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, et il insiste, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Cette phrase imagée, qui n'est pas si simple que ça à comprendre, signifie que l'enseignement que Paul et Timothée ont dispensé aux Corinthiens a fait d'eux des chrétiens réveillés qui marchent par l'esprit et qui ne sont plus soumis à la loi. L'ancienne alliance, ce sont les 10 commandements qui furent gravés sur des tables de pierre. Mais la nouvelle alliance, ce n'est pas une loi écrite. C'est le Christ lui-même vivant dans le cœur du croyant. Nous voyons là la différence radicale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. D'un côté, la loi est à l'extérieur de l'homme. De l'autre, elle est à l'intérieur de l'homme. Bien avant la venue de Jésus, le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, avait annoncé ce bouleversement de la place de la loi, tel que le décrit Paul. Non plus une loi écrite gravée sur de la pierre, mais une loi intérieure animant le cœur de l'homme. Au verset 6 que je vous ai lu, Paul insiste sur la différence radicale en disant « Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » À quoi Paul pensait-il lorsqu'il parlait de l'esprit dans ce verset ? Beaucoup de croyants pensent que l'ancienne alliance, c'est la lettre, et que le Nouveau Testament, c'est l'esprit, et que les commandements que l'on trouve dans le Nouveau Testament sont une version plus spirituelle de l'ancienne loi. Comme par exemple ce que Jésus dit à 6 reprises en Matthieu 5, cette fameuse phrase, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, je vous en cite une. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Ça c'est la loi de Moïse. Et Jésus ajoute, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, ainsi de suite. Voilà une autre loi. Eh bien, frères et sœurs, prenons conscience que Paul considère aussi ces nouveaux commandements comme faisant partie de la lettre. En effet, Paul nous dit que la nouvelle alliance n'est pas une loi écrite, qu'elle soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Elle n'est pas une interprétation spirituelle des 10 commandements. Elle n'est pas davantage le sermon sur la montagne. La Nouvelle Alliance n'est pas du tout une loi écrite. La Nouvelle Alliance, elle est l'Esprit. Paul précise sa pensée. Je cite, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. » De Corinthiens 3, 17. La Nouvelle Alliance est une disposition par laquelle Dieu a choisi de venir vivre en nous personnellement afin de permettre aux croyants que nous sommes d'accomplir sa volonté. C'est ce que prophétisait Ézéchiel. Qui écrivait « Je vous donnerai un cœur nouveau, Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, pourquoi faire ? Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Ézéchiel 36, 27. L'ancienne alliance est la lettre. La nouvelle alliance est l'esprit. Le Seigneur lui-même est l'esprit et il vit en nous. Être dans le royaume de Dieu, c'est être uni au roi de telle sorte qu'il nous gouverne depuis notre cœur nouveau. Maintenant, prêtons attention à ce qui va être dit. Il est tout à fait possible de se servir des évangiles et de toute partie du Nouveau Testament de la même manière que les Juifs dont parle Paul se servaient de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous lisons le livre, puis nous essayons d'y conformer notre vie. Nous voyons comment a agi notre fondateur et nous essayons de l'imiter. Nous pratiquons de cette façon. Si nous pratiquons de cette façon, qu'est-ce que cela donne ? Cela fait de nous une religion de plus parmi tant d'autres. Frères et sœurs, la Nouvelle Alliance n'est pas une religion. Nous avons un fondateur vivant, Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Il vit en nous. Il est en nous la loi par laquelle nous vivons. Sa vie se reproduit en nous parce que nous avons été unis à lui, rendus un même esprit avec lui. Comme le dit Paul, je cite, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, quoi ? Un seul esprit. » 1 Corinthiens 6, 17. J'ai déjà souligné que Paul décrit l'Ancienne Alliance comme étant un ministère de mort. Et pourtant, c'était une alliance glorieuse, parce qu'elle renfermait de nombreuses lois magnifiques, belles. Oui. Mais elle apportait la mort à ceux qui essayaient d'obéir à ces lois parce qu'ils en étaient incapables. Et pour cette raison, Paul appelait aussi l'ancienne alliance le ministère de la condamnation. 2 Corinthiens 3, 9. Ceux qui vivaient sous l'ancienne alliance avaient un voile sur leur cœur, nous dit Paul, 2 Corinthiens 3, 14. Je dois dire avec tristesse, écrit Juan Carlos, que moi aussi, pendant de longues années, je lisais la Bible avec un voile épais sur mon cœur. À cause de ce voile, je n'étais pas mieux loti que les gens de l'époque de l'Ancien Testament. Je voyais la lettre et rien d'autre. Je ne voyais pas l'esprit. La lettre était donc comme un voile. Je ne pouvais pas voir l'intention de Dieu derrière la lettre. Je ne voyais que les exigences sans vie. Les exigences sans vie de la loi, exigences que personne n'a jamais été capable d'accomplir. Et il poursuit. Je comprends maintenant pourquoi Paul appelait condamnation et mort l'ancienne alliance. J'essayais de vivre d'après la loi et j'enseignais à d'autres comment vivre par elle. Mais nous nous sentions toujours en situation d'échec, Jamais on ne parvenait à vivre comme la loi le voulait. Alors, nous nous sentions condamnés et nous vivions avec un sentiment constant de culpabilité. Un très grand nombre de croyants se sentent terriblement découragés en essayant de vivre la vie chrétienne, parce que la distinction entre ancienne et nouvelle alliance n'est pas claire dans leur esprit. Ils savent que sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous la loi, mais ils essaient encore de vivre selon la loi. Et quand ils découvrent qu'ils en sont incapables, ils se sentent condamnés. Nos églises sont remplies de chrétiens qui se sentent condamnés. Nous étions nombreux à avoir appris à porter un masque, donnant l'impression que nous nous portions bien. Mais derrière ces masques, il y avait des sentiments d'échec et de découragement. Beaucoup de chrétiens désespèrent parce qu'ils ne parviennent pas à faire ce qu'ils croient devoir faire. C'est triste de voir tant de gens essayer de vivre la vie chrétienne et en déduire qu'ils en sont incapables. Lorsqu'un chrétien dit « Je ne suis pas sûr d'être sauvé », c'est le signe qu'il vit encore prisonnier de la loi. Après avoir confessé qu'il a longtemps vécu sous la loi, le pasteur Juan Carlos témoigne comment il en est sorti. C'est un espoir pour tous ceux qui sont dans son cas. Dans ma propre expérience, dit-il, ce ne fut qu'arrivé au bout de mes efforts personnels. Quand j'ai compris que j'étais incapable de faire tout ce qu'un chrétien est censé faire, que j'ai déclaré forfait en me tournant vers le Seigneur. Il est important d'entendre ce témoignage. Quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté, nous dit Paul au verset 16. Quand nous cessons d'essayer de faire par nous-mêmes et que nous nous reposons en Jésus, lui faisant confiance pour qu'il vive lui-même en nous la vie chrétienne, nous ne sommes plus aveuglés par le voile, nous voyons clairement. Lorsque quelqu'un vit sous la loi, essayant d'obéir à la lettre, il peut se débrouiller assez bien pendant un certain temps. Il se discipline, il met sa vie en règle, de sorte qu'il réussit à donner l'impression d'une vie très sainte. Un jour, dit le pasteur, quelqu'un est venu dans une réunion et a rendu ce témoignage. Frères et sœurs, j'ai eu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Devinez quoi ? Il m'a délivré de la drogue. Ce frère paraissait très sain pendant quelque temps. Il faisait tout ce qu'il devait faire et il était accepté par tout le monde comme étant très très spirituel. Après 2 ou 3 semaines, il était à nouveau avec une bande de copains en train de fumer un joint. Contrairement à ce qu'il avait dit, Christ ne l'avait pas délivré de la drogue. En fait, si nous avions été sages, nous aurions mis un voile sur son visage pour que personne ne sache qu'il avait cessé de se droguer. La gloire qu'il avait manifestée était simplement la gloire de la loi. Elle s'est bien vite dissipée parce que la sainteté de la lettre, elle est généralement transitoire, elle ne dure jamais. Au verset 7, Paul écrit « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux ?» Comment Paul parle-t-il de ce ministère de l'Esprit ? Eh bien, nous avons la réponse dans les deux derniers versets que je vous ai lus tout à l'heure, au verset 17 et 18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, liberté par rapport à quoi ? Par rapport à l'esclavage de la loi. Et Paul poursuit, or c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son Esprit. C'est la traduction parole vivante. Au lieu de disparaître progressivement, comme le fait la gloire de la loi, la gloire de l'Esprit dans la vie d'une personne augmente. Elle ne disparaît pas. Elle augmente sans cesse. Et la raison en est simple. Ce n'est pas une sainteté qui consiste à se conformer à ce que les autres attendent de vous en tant que chrétien. C'est une sainteté intérieure qui jaillit spontanément, sans effort, naturellement, de notre cœur. Le vieux cœur qui était en chacun de nous à la naissance a été remplacé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas été amélioré, il n'a pas été rafistolé, il n'a pas été rapiécé. Non, il a été remplacé. Nous avons un cœur nouveau. Le vieil homme essayait d'être saint, mais il était incapable d'y parvenir parce que son cœur n'était pas saint. Alors la gloire disparaissait rapidement. Mais l'homme nouveau a un cœur qui est saint. Il lui est donc naturel de vivre une vie juste. Il n'essaie plus d'imiter le Jésus d'il y a 2000 ans. Il laisse simplement le Christ vivant se manifester dans son caractère. Avons-nous compris ce que nous dit Paul ? Si oui, alors nous pourrons faire l'expérience que préconise Juan Carlos Ortiz. Que dit-il ? Regardez-vous dans une glace. Mettez votre vision bien au point. Et découvrez qui vous êtes. Vous êtes une expression du Christ glorifié, du Christ éternel qui vit en vous. Et il donne ce conseil. Commencez à y croire. Et vous commencerez à expérimenter sa vie comme une réalité quotidienne. Ne pensons pas que ce conseil que nous donne ce pasteur est un peu olé olé. Si nous avons vraiment compris ce que Paul nous dit, nous pouvons faire cette expérience et la personnaliser, nous mettre devant un miroir et dire: Seigneur, je suis une expression de toi, Christ glorifié, Christ éternel qui vit en moi. Ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse. Agisse puissamment en nous. Ta parole est la vérité, Seigneur. Elle a été écrite sous l'onction de l'Esprit. Ce que dit Paul dans le texte que nous avons lu est vrai. Alors, Seigneur, permets que nous puissions l'expérimenter et le vivre chaque jour dans notre vie. C'est ce que tu veux, Seigneur. Nous avons été créés pour cela. Et cela te rend gloire.